Alors, si vous voulez bien, on va juste se courber avant le message pour demander au Seigneur sa bénédiction. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour notre frère Gilles. Nous te remercions que tu puisses, que tu as mis ta main sur lui et sur ses médecins. Et merci pour l'intervention chirurgicale qui s'est bien déroulée. On te prie que tu lui donnes un rétablissement complet, que tu le fortifies, que tu le bénisses abondamment, Seigneur. Merci pour toute l'équipe d'infirmiers, infirmières, médecins qui ont pris soin de lui. Et on te prie que tu puisses le remettre en pleine forme. Merci pour cette belle église, Seigneur, et pour tous les membres. Notamment, on pense à notre frère Éric et Nathalie. Merci pour ce cher couple, pour leur cœur si dédié à ta cause, à ta vision. On te prie de les bénir abondamment, Seigneur. Et on te prie que ce matin, tu puisses parler à nos cœurs. Nous voulons être de meilleures épouses, meilleurs maris, meilleurs célibataires. Aide-nous, parle à nos cœurs ce matin, parce qu'on te le demande au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous l'avez? Oui, c'est bien. Hey, question pour vous autres. Qui ici a déjà eu un conflit? Pas besoin de lever la main, ça va être à l'unanimité. Hein? On a tous eu des conflits, ça c'est sûr. Les conflits, malheureusement, ça arrive, on s'en sort pas. Et c'est le cas aussi des mariages. On le voit par le nombre de divorces. Ah, écoutez bien ceci, un de mes petits gars, le gars de mes filles, il est autiste, très jeune, haut comme trois pommes. Il arrive chez lui l'autre jour, et voici ce qu'il dit. Il dit, plus tard, je veux conduire des autobus, puis je vais être une famille d'accueil avec ma femme, puis je vais me divorcer après 2 ans de mariage. C'est mon ami. Ben écoutez, au moins il y a de l'ambition, on voit ici ce qu'il veut faire plus tard, mais ses parents, il va falloir qu'ils s'assoient avec lui pour reparler un petit peu de la vision du mariage. Hein? Mais il a compris une chose, ce petit gars-là, que le mariage, c'est pas facile. Hein? Pas d'amen, hein? Non, c'est comme, je comprends ça. Vous êtes très silencieux, vous êtes sage, c'est bon. Le mariage, ce n'est pas facile. On le voit par le taux de divorce. Mais attention, vous savez le premier chiffre qu'on entend à propos des divorces, quand on parle de divorce, hein, c'est quoi le premier chiffre? 50 % 50 % des mariages finissent par un divorce. Bien, savez-vous que ce n'est même pas vrai? Imaginez qu'en 2014, donc on parle assez récent, là, une firme américaine de recherche sociologique, Shanti Feldan, a mené une analyse statistique très poussée pour découvrir quel était le vrai taux de divorce pour les premiers mariages. Ils arrivent à un taux de divorce plus juste et plus réel, ça a été très poussé, qui se situe seulement à 20 et 25 % Wow! Amen! Mais hein, je comprends. Voilà le vrai taux de divorce. Alors, ce n'est pas vrai que 50 % des mariages finissent par un divorce. D'ailleurs, l'étude de Feldman inclut d'autres statistiques encourageantes. Après avoir compilé des recherches sociologiques de plusieurs sources, ces chercheurs disent que le chiffre médian de ceux qui se disent heureux dans le mariage tourne autour de 80 % Hey, 80 % et semble-t-il que c'est un chiffre très conservateur en plus. Ils ont été très prudents. Donc, le taux de mariage heureux est de 80 % Amen! Amen! Alors, on s'entend que 20 % de divorce, c'est encore quand même triste. Et ça cause beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup de colère aussi chez les personnes qui ont passé à travers des divorces. Même plusieurs années après. Imaginez, une étude a été menée par Judith Wallerstein, qui a fondé le Centre pour la famille en transition à Corte Madera, en Californie. Elle a mené une enquête parmi plusieurs familles divorcées. Et les résultats de son étude étaient un rappel vraiment déchirant puis poignant sur les conséquences du divorce. Chose incroyable, même après 10 ans de divorce, la moitié des femmes et le tiers des hommes ressentent encore beaucoup de colère envers leurs anciens conjoints. Et parce que leur colère ne s'est pas atténuée au fil des années, cette colère est également présente dans la vie de leurs enfants. Et dans certains cas, cette colère occupe une place dominante dans la vie de leurs enfants. Heureusement, les chrétiens qui passent à travers un divorce ont l'immense avantage d'avoir autour d'eux des chrétiens qui peuvent les entourer, les encourager, les soutenir. Et dans une certaine mesure, l'Église qui est une famille, peut fournir et compenser ce qui a été perdu dans le divorce. En plus, les chrétiens qui ont passé par un divorce ont la puissance du Saint-Esprit qui peut reconstruire leur vie et cicatriser les plaies causées par de telles tragédies. Amen. La puissance transformatrice du Saint-Esprit peut changer la colère qui perdure et peut changer les peurs que l'on peut éprouver grâce à la prière et passer du temps avec Dieu. Il peut changer notre cœur. Est-ce que ce n'est pas glorieux? Tout ça pour dire que le mariage n'est vraiment pas facile et il y aura des conflits. On va se chicaner. D'ailleurs, les chicanes sont la cause pour 56 % des divorces. Tous les couples se chicanent. D'ailleurs, il y avait un jeune célibataire qui sortait avec une fille, il voulait la marier, il s'appelait Lorraine. Et puis, ils sortaient ensemble, puis ils n'arrêtaient pas de se chicaner. Alors là, il dit, ça n'a pas de bon sens, est-ce que je vais marier une femme avec qui je me chicane? Je me chicane tout le temps, on est là pour marier, on devrait avoir passé ça. Alors, il s'en va voir un conseiller chrétien, avec beaucoup d'expérience, puis il s'en va lui demander, il dit, écoute, je ne sais vraiment pas quoi faire, Lorraine et moi, on sort ensemble, on n'arrête pas de se chicaner, puis là, on vise le mariage, est-ce que je devrais me marier avec une femme qu'on ne réussit pas à passer à travers les chicanes qu'on a, tu sais, il me semble qu'on devrait être rendu à la place où on aurait traversé une ligne, là, puis qu'on est calme, puis ça, on ne chicane plus. Alors, regardez bien ce que le conseiller lui a dit, il dit, écoute-moi bien, mon grand. Il dit, tu vas te chicaner toute ta vie, avec une personne. Maintenant, tu veux-tu que ça soit avec Lorraine? Toute ta vie, tu vas te chicaner avec une personne. Est-ce que tu veux que ça soit avec elle? Parce que c'est, on s'en sort pas. Si tu penses qu'on rentre dans le mariage puis les conflits arrêtent, mon ami, tu rêves en couleur. Je le vois, moi, parce que j'ai marié plus d'une centaine de couples à travers les années. Puis, ah, mon ami, ils sont en amour, puis là, c'est la journée de mariage, puis là, le mariage, c'est comme, wow, ça, c'est comme the day, là, c'est la grosse affaire, puis ils sont tellement heureux et tout ça. Puis, mais tu sais, il y a beaucoup de tension, puis de pression dans la journée, beaucoup de stress pour la journée du mariage, tellement de petits détails, tu sais. Puis là, tu penses à tous les détails, puis tout ça, puis tu arrives à la fin de la journée, mon ami, le soir, tu sais, puis tu es crevé, tu es brûlé, puis tu es de même. Ça, c'est la nuit de noces, première nuit de noces. Puis là, ils viennent me voir après. Normalement, je ne pensais pas que c'était comme ça. Mais hey, welcome. C'est comme dans le vrai monde. C'est normal. On va être honnête. Personne n'est arrivé à la perfection. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne, nous sommes dans le processus pour nous améliorer. On veut s'améliorer, devenir de mieux en mieux, ressembler de plus en plus au caractère de Jésus-Christ, ce que la Bible appelle la sanctification. Et jusqu'au retour de Jésus, on peut avoir certains domaines où on a peut-être plus de victoire que d'autres domaines, mais il reste qu'il va y avoir des domaines dans ta vie où tu as besoin de sanctification, de grandir et changer. Être pécheur signifie qu'on est essentiellement centré sur nous-mêmes. On va avoir des conflits, c'est sûr, dans nos relations. D'ailleurs, Gary Thomas, qui a écrit un livre intitulé ceci, « Mariage sacré », sous-titre, « Et si Dieu avait conçu le mariage plus pour nous rendre saints que nous rendre heureux ». C'est une approche très honnête et biblique sur le mariage. Dieu a conçu le mariage pour sa gloire. Et l'un des ingrédients essentiels du mariage, c'est cette œuvre de sanctification qui a lieu entre deux pécheurs qui vivent proches ensemble, l'un de l'autre, et qui apprennent à s'aimer. Au final, il y aura des conflits, ça fait partie de nos relations, il y aura des conflits dans le mariage. Et il y aura des conflits dans les mariages les plus romantiques, les plus passionnés. En fait, on découvre d'ailleurs, et c'est prouvé, on découvre que plus on est passionné en amour, plus on est passionné quand on chicane. Hey, on s'en sort pas, hein? Les conflits font donc naturellement partie du mariage. Ça ne veut pas dire que c'est bon, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas rien faire. On doit travailler pour régler et essayer d'améliorer nos conflits. Mais juste parce que deux chrétiens s'aiment et aiment Jésus, ça ne veut pas dire que ce sera nécessairement facile. C'est l'une des choses qui rend la grâce de Dieu si incroyable. La patience de Dieu envers nous, c'est extraordinaire. Et c'est ce dont j'aimerais vous parler ce matin, les chicanes. Entre autres, les chicanes de couple et comment mieux se chicaner. Hein? Un cours de chicane. Vous pourrez dire, dimanche, on a eu un cours, comment chicaner? On a besoin d'apprendre certains principes. On est en train de faire une série sur le livre des Cantiques. Hey, écoutez, c'est le livre le plus romantique de toute la Bible. Et la raison pour laquelle Dieu a inspiré le livre des Cantiques, c'est justement pour nous donner une meilleure vision, une vision plus juste et biblique sur le mariage, sur le romantisme et sur l'amour. Le livre est tellement explicite, débordant de scènes érotiques. C'est tellement érotique d'ailleurs que les rabbins empêchaient les jeunes en bas de 30 ans de lire le livre. Mais après 30 ans, par exemple, ils disaient « Hey, tu as besoin d'apprendre ce livre-là, puis vas-y, récite-le, puis apprends-le. » Parce que c'est une belle vision du mariage et des relations de couple. Le livre nous présente l'histoire d'un couple en amour. Écoute, passionnément en amour. Tu ne peux pas avoir des gars, puis un gars, puis une fille plus romantique que ça. Pourtant, alors qu'on se retrouve dans le livre le plus romantique de toute la Bible, qu'est-ce qu'on voit? Hop, ben, on voit un petit peu de tension dans le couple. D'ailleurs, 20% du livre du Cantique des Cantiques, le livre le plus romantique de toute la Bible, 20% du livre porte sur des conflits. Ah, man, je suis tellement content. Ben oui, parce que vois-tu, voici un couple qui est passionnément en amour, puis tu peux regarder ça, puis tu dis, aïe, 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 vraiment, moi, c'est tellement comme la barre est haute. Ben non, eux aussi ont des tensions ici et là. Ah, ça fait du bien. Alors, chaque couple va connaître des conflits. Alors, on tourne ensemble dans Cantique chapitre 5. On va lire les versets 2 et 3. Cantique des Cantiques, d'accord? Alors, psaume, proverbe, ecclésiaste, Cantique des Cantiques. C'est plus facile de trouver les psaumes. Le Cantique des Cantiques, c'est juste quelques chapitres. Alors, Cantique des Cantiques, chapitre 5. Vous êtes prêts? Laissez-moi vous lire ça. J'étais endormi. Ça, c'est la femme. J'étais endormi. Mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé. Il frappe. Ouvre-moi, ma sœur. Mon ami, ma colombe, ma parfaite et mon doux. Hein? Ça fait combien de temps, les hommes, vous n'avez pas appelé votre femme « et ma parfaite »? Tu es parfaite. Non, mais quand même, écoute, le gars est romantique, là. Ma colombe. Hein? On s'appelle des petits mots doux et romantiques comme ça. Hein? J'ai entendu une femme l'autre jour, elle dit, elle appelle son mari et elle dit, « Hey, le gros, viens ici. » Bon, OK. Ma colombe. Ma parfaite. Ma parfaite. Hey, c'est beau. « Car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines de gouttelettes de la nuit. » Elle dit, « J'ai enlevé mon habit. Comment pourrais-je le remettre? J'ai lavé mes pieds. Comment pourrais-je les salir? » Vous savez ce qui se passe. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe. Le gars, il a travaillé pas mal fort. Il est parti dans les champs, mais il a travaillé très, très dur. Il a travaillé toute la journée. Très, très long, parce qu'on sait, parce qu'il est rendu couché, sa femme est couchée. Alors, il a travaillé très, très fort, il a travaillé dehors et tout ça. Puis, il a travaillé à la sueur de son front. Il a transpiré, on le voit, parce que, voici ce qu'il dit, « Ma tête est couverte de rosée. » Ça faisait quoi? Il est tout mouillé. Le gars, il a transpiré, il travaillait pas mal fort. Alors, le gars, il a eu chaud, il travaillait fort. Puis, il a travaillé dans les champs, puis il est fatigué, puis il est prêt à rentrer à la maison. Maintenant, lui, là, s'est fait toute une scène dans sa tête. Lui, il a fini de travailler, tu sais, jeune couple, en amour par-dessus la tête. Ah, c'est romantique, cette affaire-là. Alors là, il est dans les champs, puis tout ça, toute la journée, il a tellement hâte d'aller voir sa femme le soir. Là. Puis là, il se fait un scénario, il a fini de travailler, il dit, enfin, je vais voir ma femme. Ah, ça va être merveilleux, je rentre à la maison, puis ça, ma femme va m'attendre, d'avoir préparé peut-être un beau repas bien chaud, tout ça. Je vais rentrer à la maison, elle va partir à courir, elle va venir m'embrasser, elle va me sauter dans les coups, puis elle va me donner là, des becs, là, passionnément m'embrasser, tout ça, puis ça va être merveilleux. On passe une belle soirée romantique, prendre des bons verres de vin, tout ça, puis à la fin de la soirée, on va faire l'amour, tu sais. Lui arrive, puis regarde sa femme. Sa femme, elle dit, écoute bien là, j'ai pris ma douche, je suis en pyjama, je suis couché, pas à soir, petit gars. On se fait des scénarios, hein? On se fait des scénarios. Lui était là, mon ami, puis, tu sais, comme, il s'imaginait toutes sortes de choses, une belle soirée, tout ça, tu sais. Et ça me fait penser à ma belle-mère. Je suis assis dans le salon chez ma belle-mère. Je suis assis, mon beau-père est là, il est juste en avant de moi, tu sais, puis on se parle, tu sais, on t'en a parlé, tu sais. puis ma belle-mère est dans la chambre, elle est dans sa chambre, c'est un condo, puis ça. Fait qu'elle est debout en chambre, dans la chambre, elle est en train de faire de quoi être occupée, tu sais. Fait qu'il y a une porte, là, tu sais. Fait que là, moi, je suis là, j'en ai parlé à ma belle-mère, à mon beau-père, puis ça, tu sais, puis il me disait qu'il avait mal dormi la nuit, tu sais. Fait que là, pour le taquiner un petit peu, je dis, « Voyons, M. Bergeron, dites à votre femme de vous laisser tranquille dans la nuit. C'est quoi cette affaire-là, vous faire l'amour toute la nuit comme ça, qu'elle vous laisse un peu tranquille, ça n'a pas d'allure. Vous avez besoin de sommeil, M. Bergeron. » Ma belle-mère, elle sort juste la tête, elle me regarde. « Dans tes rêves. Dans tes rêves. » Là, on se fait toutes sortes de scènes dans notre tête, hein, romantiques et tout ça, tu sais, puis... Là, lui, là, il arrive, tu sais, puis il voit sa femme, tout ça, puis il attendait un bon repas chaud, et tout ça, il travaillait très fort, il a transpiré, tout ça, puis il arrive à la maison, tout ça, puis... Ouf! Adore, il ne veut rien savoir. Non, pas ce soir, petit gars, reste tranquille. Hein? Vous savez, c'est l'une des raisons des conflits. C'est l'une des raisons du conflit en passant. C'est pas juste une question sexuelle, c'est nos attentes. Les attentes insatisfaites. Et mon ami, ça revient souvent. Les attentes non comblées. Toutes les frustrations chez les couples portent sur les attentes non satisfaites. Comment réagir quand nos attentes ne sont pas satisfaites? Mais regardez bien le gars, regardez bien la réaction de ce gars-là. Verset 4. « Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre. » Tu regardes ça, puis ça ne te dit absolument rien, parce qu'on ne vivait pas dans ce temps-là. Là. Mais je vais vous l'expliquer tantôt, ce que ça veut dire. « Et j'ai été bouleversé à cause de lui. J'ai commencé à ouvrir à mon bien-aimé et de mes mains à perler la mire, et de mes doigts la mire a coulé sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'était retiré. Il avait disparu. Je perdais tous mes moyens pendant qu'il parlait. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai appelé, mais il ne m'a pas répondu. » À première vue, ça donne l'impression que le gars est fâché, frustré, mon ami, parti à courir, puis dit « Tiens, vas-y à toi, je pars. » Mais ce n'est pas ça du tout qui se passe, et on le sait d'ailleurs. C'est tout à fait le contraire. Alors qu'elle refuse de passer un moment romantique et sexuel avec lui, il ne se fâche pas, il ne réagit même pas, il ne se met pas à crier. Et là, il va poser un geste très romantique pour cette culture-là. C'est un peu l'équivalent des petits gestes qu'on peut poser de surplus lorsque la Saint-Valentin arrive, par exemple. Et c'est l'expression « passer la main par la fenêtre ». C'était une coutume. Il y avait quelque chose là qui, tout de suite, c'était la façon de dire dans cette culture-là « chérie, c'est correct, je t'aime ». Ça, c'est la réponse qu'il a faite. « C'est correct, chérie, je t'aime ». C'est une façon de dire qu'il l'aimait. Il lui a rappelé qu'il l'aimait. Ses attentes n'étaient pas comblées. Il était peut-être même frustré, déçu, mais il prend quand même le temps de lui dire « je t'aime ». Et qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il s'en va prendre une marche. Il s'en va prier. On voit que c'est un homme de Dieu. Il va peut-être aller prier. Il aurait pu rentrer frustré, puis aller tempêter, puis aller voir sa femme, puis donner un paquet de raisons, essayer d'argumenter, essayer de la manipuler pour lui faire changer d'idée, mettre de la pression sur elle. Ce n'est pas du tout ce qu'il fait. Il se contrôle, il se tait, et il lui rappelle, « C'est correct, chérie, je t'aime. » C'est un moment très doux, un moment très tendre. Et ça va prendre une marche, ça va l'aider à évacuer sa frustration, de voir l'attitude de son mari, qui lui dit avec douceur, « C'est correct, chérie, tu peux faire dodo, tu peux dormir. Sache que je t'aime. » Eh bien, sa femme réalise qu'il est parti prendre une marche, alors elle part à sa recherche pour le retrouver. C'est un moment très tendre. Il peut y avoir de la tendresse, même en plein milieu de nos conflits, même au milieu de notre tension. On peut faire des rappels, et c'est important de faire des rappels, même quand on a des moments de chicane, de pouvoir rappeler à l'autre qu'on l'aime. Dieu sait que nous aurons des moments de tension dans nos relations, que nous allons même parfois nous disputer, parce qu'on est pécheurs, mais il faut apprendre à bien chicaner. Comment on fait ça? Ça veut dire quoi? Chaque couple peut apprendre à mieux gérer les conflits. Quand nos attentes sont insatisfaites, on peut maîtriser nos pensées par la grâce de Dieu et mettre en pratique quelques saines façons de gérer les conflits. Laissez-moi vous proposer certains principes qui vont nous aider à mieux gérer nos conflits. Premièrement, répondre avec douceur plutôt que de réagir. On doit faire attention de ne pas réagir face aux choses qui nous dérangent. Nos mauvaises réactions montrent notre manque de maturité et de maîtrise de soi. Son mari ne s'est pas mis à crier après elle. Il a gardé son calme, même dans la frustration, dans la déception. Et il a répondu, « Je t'aime, chérie. » Il a amené sa frustration ailleurs. Quand nos attentes sont insatisfaites, l'orgueil prend souvent le dessus. Et quand l'orgueil embarque, ça distorsionne notre façon de voir des choses. Ça déforme les choses. L'orgueil déforme la réalité. Parce que la réalité, dans ce cas-ci, c'est probablement qu'elle était simplement fatiguée. Rien en arrière, il n'y a pas de dessous, rien, c'était bien simple. Pas de manque d'amour, parce qu'on le voit par sa réaction. On va définitivement mieux gérer nos conflits en prenant l'habitude de répondre doucement plutôt que de réagir. Une autre habitude, une bonne habitude à prendre, c'est d'aller voir Dieu, aller prier, passer du temps avec Dieu. Ce n'est pas son mari qui est allé voir sa femme pour essayer de la raisonner, de la manipuler jusqu'aux petites heures du matin, aux petites heures de la nuit. On va régler ça à soir, puis tu vois, puis dans le fond, ce que le gars est en train de dire, je vais gagner, puis tu sais, etc., puis il donne tous des arguments. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Il n'a pas essayé de la convaincre du tout. Il arrive parfois qu'on essaie de manipuler notre conjoint à faire ce qu'on veut. On emmène un tas d'arguments pour essayer de la convaincre à changer. Mais ça, c'est souvent destructeur. Ça fait du mal et on se donne des paroles blessantes. Le problème avec ça, c'est qu'on n'aborde pas le problème à la source. Seul le Seigneur peut faire ça. Seule la parole de Dieu peut aller en bas de la surface, en dessous de la surface, se rendre jusqu'au cœur et changer le cœur. Et à partir du changement qui se passe à l'intérieur du cœur, va avoir un impact sur le comportement extérieur. On voit le roi David qui, mon ami, était pas chassé. Il y avait des ennemis qui voulaient le tuer, même. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va constamment voir le Seigneur et constamment prier le Seigneur. La parole de Dieu révèle que Dieu appelle les maris à aimer leur femme comme Jésus a aimé son Église. Ça veut dire que nous les aimons en dépit de leur réaction. Et c'est aussi ce que les femmes ont besoin, d'honorer et respecter leur mari en dépit de leur réaction, si elles veulent voir leur mari changer. Marie et femmes, on a besoin de prendre une approche centrée sur la grâce. Et c'est ce qui va se passer lorsqu'on passe du temps seul avec Dieu et qu'on laisse le Seigneur attendrir notre cœur. Combien de fois, moi, je me suis chicané. C'est arrivé. Quelquefois, plus souvent que j'aimerais l'admettre, je me suis chicané. Puis là, j'étais là, tempêté, puis pensais d'avoir raison, etc. Puis à un moment donné, j'allais, mettons, prier. Et qu'est-ce qui arrivait? Le Seigneur tranquillement me montrait, « Hey, hey, regarde, regarde ce que tu as dit, regarde ce que tu as fait. Est-ce que ça a honoré ta femme, ça? Est-ce que tu as fait attention à ta femme? » Et vraiment avoir un cœur brisé. C'est arrivé même cette semaine. Imagine-toi, tu parles d'une semaine pour se chicaner, quand tu parles sur bien chicaner. C'est comme, pas cette semaine, Seigneur, la semaine prochaine. Aïe, aïe, aïe. Fait qu'écoute, c'est arrivé cette semaine. C'est de ma faute. Parlez-en pas à ma femme, là, tu sais, mais dis-tu pas, là, mais c'est de ma faute. Et puis, j'ai mal réagi, tout ça, j'ai demandé pardon. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est vraiment dans les temps, quand tu parles du temps avec le Seigneur, je te dis, le Seigneur, il attendrit ton cœur, là, tu sais. Certainement, nous les hommes, je vais vous donner vraiment, c'est une réalité, là. Nous les hommes, on ne sera jamais assez romantique, assez gentil, assez serviable, assez généreux pour changer le cœur de notre femme. Au final, seul le Saint-Esprit peut changer le cœur de notre femme. Oui, on veut les aimer, on veut les encourager, les soutenir, on veut les protéger. Mais on veut remettre ultimement notre épouse dans les mains du Seigneur Jésus. Et c'est aussi vrai pour les femmes. Tu as beau donner tout le sexe qu'il veut, qu'il désire, tant qu'il en veut. Tu peux lui préparer les meilleurs repas inimaginables. Tu peux lui donner tout le temps qu'il veut seul dans sa caverne. Ultimement, seul le Seigneur va pouvoir changer son cœur. Nous allons beaucoup mieux gérer nos conflits si on prend l'habitude de répondre au lieu de réagir, de prier. Et aussi, nous allons mieux gérer nos conflits en cherchant, troisièmement, à mieux communiquer. Ça veut dire quoi, ça, bien communiquer? Et laissez-moi vous présenter sept vertus. Les sept vertus d'une bonne communication. Premièrement, bien communiquer, c'est parler avec respect et retenue. Par exemple, Proverbe 29, 11 dit ceci. L'homme stupide. Puis en passant, ce n'est pas les hommes, ici c'est générique, c'est hommes et femmes. L'homme stupide affiche toute sa passion, tandis que le sage y met un frein, se contrôle. Alors il faut se contrôler, se maîtriser, faire attention à nos paroles. Deuxièmement, bien communiquer, c'est éviter toute forme de violence conjugale. Et tout abus est inacceptable. Point à la ligne. C'est inacceptable. On parle de violence conjugale ici. C'est inacceptable sous toutes les formes, que ce soit la violence physique, la violence émotionnelle. Et il faut dénoncer parfois. Lorsque ça devient physique, il faut dénoncer. On ne perd pas de temps, là. Et dans les cas d'abus physiques, il faut sortir de la maison le plus vite possible. Il faut se séparer pour un temps, protéger. Se protéger et aller chercher de l'aide. Et parfois même, certains cas vont aller jusqu'au point de se divorcer lorsqu'il n'y a pas de repentance. Laissez-moi vous montrer un verset, 1 Corinthiens 7, 15 ici. C'est un verset important, si on peut avancer la diapo. 1 Corinthiens 7, 15 qui dit « Si le non-croyant se sépare, maintenant traditionnellement, on disait qu'il y avait deux raisons bibliques, deux permissions bibliques pour le divorce. L'adultère et dans le cas d'un non-croyant qui quitte le foyer. Alors, traditionnellement, alors c'était basé sur 1 Corinthiens 7, 15, qui dit ceci, qui dit, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés, alors sont déliés, littéralement libres de divorcer, comme s'ils n'étaient pas mariés, divorcer, se remarier, ne sont pas liés dans ces cas-là, Dieu nous a appelés à vivre en paix. Mais récemment, l'éminent théologien de Wayne Grudem, un grand, grand théologien très respecté, écoute, c'est lui qui a écrit la grosse brique de théologie systématique, là, très respecté, a récemment fait un exposé d'1 Corinthiens 7, 15. Il est retourné pour aller faire une analyse très poussée de cette expression-là, de ce petit mot-là, qui est en... Si on peut reculer une diapo, s'il vous plaît. Non, c'est noir, OK. Bon, c'est rouge. Vous voyez ce qui est rouge ici, c'est ce cas-là. Alors, il s'est arrêté sur cette expression-là, c'est juste un mot dans l'original. Et puis, il est allé faire une étude de cette expression-là, « toi outos », qui est en pluriel, est au pluriel dans l'original. Et il a découvert ceci. Il a vu à 52 endroits ou 53 endroits en dehors extra-bibliques comment on se servait de cette expression-là. Et le mot fait souvent référence à d'autres sortes de situations que l'exemple original. En d'autres mots, une façon de traduire ce verset, et là on peut avancer la diapo, s'il vous plaît, une façon de traduire ce verset-là, ce serait « si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, et dans ce cas-là, et dans les autres cas similaires, tout aussi destructeurs. » En d'autres mots, dans ce cas-ci, où le non-croyant quitte, ou dans les autres situations, parce que c'est au pluriel, dans les autres situations similaires où le mari ou la femme détruit, est en train de détruire le mariage, et quelque chose de destructeur agit comme détruire son mari ou sa conjointe, eh bien, elle est libre. Le frère ou la sœur n'est pas lié. Dieu les appelle à vivre en paix. Alors, pour Grudem, ça devrait inclure tout ce qui peut détruire un mariage, par exemple, le cas d'abus physiques et d'abus émotionnels. Ce que ça veut dire, c'est qu'une femme n'est pas obligée, que personne ne vous dise, si on peut avancer, que personne ne vous dise, n'acceptez pas qu'une personne, je pense qu'il n'y avait pas un diapo noir quelque part, oui, que personne ne vous dise que la femme devrait rester avec son mari puis se faire battre le restant de sa vie. Je m'excuse, ce n'est pas vrai. D'ailleurs, ce n'est pas du tout en ligne avec le caractère de Dieu. Ce n'est pas vrai que Dieu va exiger qu'une femme reste mariée le restant de sa vie puis qu'elle souffre puis qu'elle n'arrête pas de se faire battre. C'est faux. Et d'ailleurs, ce verset-là, maintenant, le démontre, le prouve avec ce mot-là. Alors, moi, je suis très à l'aise avec cette position-là, cette explication-là de Wayne Grudem. Ça se tient. Maintenant, on n'a pas le temps de voir à travers toute l'étude. C'est une étude de 8 pages, une exégèse de 8 pages. Mais je vous donne simplement la conclusion ici. Alors, comme enfant de Dieu, on veut évidemment travailler à la réconciliation. Tu sais, c'est pas quand on comprend ça, là. C'est tout à fait à l'image de l'Évangile. Le mariage est une alliance de grâce, puisque nous sommes tous pécheurs et brisés par le péché, au même titre que le Seigneur aussi agit avec grâce envers nous. Alors, on souhaite le pardon, on souhaite la réconciliation, mais dans certains cas, ce n'est pas faisable parce qu'il n'y a pas de repentance. Alors, on suggère fortement que le couple en difficulté ne se gêne pas. Moi, il y a une des choses qui me frustre, et là, je suis assez vieux pour pouvoir le dire ouvertement, là, tu sais, comme... Tu sais, quand tu vieillis, c'est ça la beauté quand tu vieillis, tu sais. Je veux vous le dire, moi, une des choses qui me frustre, c'est que les couples qui sont chrétiens ne vont pas chercher de l'aide. Bon sang, tu sais. Alors, parle-en pas. Parle-en surtout pas. On garde le silence. On nous met des menottes. Moi, maintenant, ce que je dis aux gens, là, puis là, je vais peut-être perdre des gens qui ne vont plus me voir, là, mais moi, je dis aux gens, là, écoute, les gens me disent, dis-le pas à mon mari, que je te l'ai dit. Là, ils mettent des menottes comme ça, là, puis comme je n'ai pas le droit d'intervenir. Là, je regrette, moi. Maintenant, là, j'accepte plus ça. Je me dis, garde, tu es assez confiant pour venir me voir. Bien, fais-moi assez confiance pour dire que si je décide d'aller voir ton mari ou aller voir quelqu'un d'autre qui est peut-être un expert dans ce domaine-là, tu me donnes le droit. D'accord? J'accepte pas de me faire mettre avec des menottes. Je le dis avec beaucoup de douceur, là. Mais en d'autres mots, ça peut rester le même pendant 10 ans si on ne dit pas ça à personne, si on ne fait rien. Et là, je ne suis pas en train de dire là, qu'il faut aller comme partout et tout dire. Non, je comprends l'idée de respecter la discrétion puis d'être discret et tout ça. Je comprends ça, c'est absolument nécessaire. Faire attention, là, pas de cancan et tout ça. On veut protéger la réputation, le témoignage d'un individu. Et ça fait mal, ça. Des fois, il y a des fausses rumeurs qui circulent, puis c'est fini. Une fois que la rumeur est partie, c'est parti, là. D'accord? Donc, allez chercher de l'aide, allez voir des pasteurs, allez peut-être même voir des thérapeutes chrétiens. Il y a des bons thérapeutes chrétiens qui peuvent vous aider. D'accord? Ah, ça fait du bien. Femme, ce matin, là, je me laisse aller un peu, là. Ça fait des années que je voulais dire ça, là. Aïe, 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 non. C'est parce qu'on souffre, hein? On vous voit souffrir, certains parmi vous, on vous voit souffrir, et vous êtes comme prisonniers dans cette souffrance-là, cette douleur-là, puis on veut vous aider. C'est pour ça que je dis ça, dans le fond, là. Alors, l'Église a le rôle et la responsabilité de protéger la victime, à la fois la victime, mais aussi entourer celui qui fait violence à son conjoint. On veut l'aider à se repentir. Alors, une bonne communication inclut le respect, la retenue, la prière, l'absence de toute forme d'abus émotionnel ou physique. Et une bonne communication évite d'humilier son conjoint en public ou en privé. On ne veut pas l'humilier. Tu sais, lancer des petites craques devant les autres, là, ça, c'est comme... non, ça, tu t'en profites pour te venger un petit peu, là. Regardez ce que Jacques 3.5 dit. « La langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Par elle, nous bénissons Dieu, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De même, la bouche. De la bouche sortent la bénédiction et la malédiction. » Regardez Éphésiens 4.29 qui dit ceci. « Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Alors, bien communiquer, c'est éviter de chicaner devant les enfants. Une chose est certaine, nous sommes en train d'enseigner à nos enfants comment on chicane. Quand les enfants te regardent, puis ils sont en train d'apprendre. Ils te regardent te chicaner avec ta femme et ton mari. Ils sont en train de voir, on est en train de leur donner une vision sur le mariage. Cinquièmement, bien communiquer, c'est éviter de mentionner les parents de votre conjoint, ce que j'ai déjà fait. « T'es pareil comme ta mère. » Sixièmement, bien communiquer, c'est jamais ramener le passé dans le but de faire du mal. 1 Corinthiens 13 dit « L'amour ne garde pas de registre du mal. » Septièmement, et on termine là-dessus, bien communiquer, c'est ne jamais chercher à gagner. Tu sais, quand tu es en train de chicaner, puis tu. Dans le fond, le but, c'est quoi? C'est que tu veux gagner la chicane. Mais l'amour ne cherche jamais à gagner. C'est pas ça, l'amour. L'amour veut gagner non l'argument, mais le cœur. Vous savez, le cantique, le titre de cette série, c'est. La bannière, c'est l'amour. Et c'est vraiment beau comme image. C'est, vous savez, comme une armée, il y a toujours un drapeau en avant, le chef qui est en avant, il court, là, puis on s'en va en guerre, puis il y a un grand drapeau, là, puis tu as le drapeau, ça représente ton armée. Eh bien, Paul House, dans son commentaire, explique que l'image est celle d'un roi qui vient conquérir la ville, mais au lieu de prendre la ville par la force, il la gagne par amour. La femme du Cantique des Cantiques est en train de dire, « Cet homme a gagné mon cœur par l'amour. » Ça, c'est une belle image. Vous savez quoi? On devrait placer un gros drapeau sur tous nos toits de maison puis dire, ici, là, c'est l'amour. Notre drapeau, c'est l'amour. Et ce que ça veut dire, c'est que tranquillement, on va se gagner les cœurs l'un et l'autre par l'amour. Vous savez l'amour, que ça fait? L'amour, ça désarme. Ça inspire la confiance. Ça laisse tomber nos insécurités et nos peurs. Et c'est ce qu'on veut. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a fait. Et c'est ce qu'on veut célébrer avec la Sainte-Seine. Alors, on invite les frères à venir, les gens qui ont été assignés pour distribuer la Sainte-Seine. On va distribuer les éléments ce matin. Et c'est ça qu'on veut célébrer. La bannière de Jésus. c'est l'amour.